Sealcast présente la revue de presse thème du jour AI Safety and Alignment avec Victor et Nia. Bonne écoute.
Tu as vu cette proposition sur Less Wrong, le mécanisme de pledge conditionnel pour les chercheurs en IA. L'idée, c'est que des chercheurs des labos frontières s'engagent à faire une pause, mais seulement si assez de leurs pairs s'engagent aussi.
Oui, et l'inspiration vient du moratoire sur la Mirror Life en biologie de synthèse, où les chercheurs eux-mêmes ont décidé d'arrêter une ligne de recherche. L'auteur se demande si c'est transposable à l'IA.
Honnêtement, je vois le raisonnement. Si tu prends les chiffres qu'elle cite, le sondage AI Impact 2023, tu as 86% des chercheurs qui s'inquiètent de la désinformation par IA, 73% des bioarmes assistées par IA, et pourtant, ils continuent à pousser le moteur. Le pledge conditionnel, ça résout théoriquement le problème du dilemme du prisonnier individuel.
Théoriquement. Mais regarde la différence avec la Mirror Life. Là, tu avais une communauté petite, très spécialisée, sans pression commerciale comparable. Sur l'IA frontière, tu as quelques milliers de chercheurs répartis entre OpenAI, Anthropic, DeepMind, XAI, plus la Chine. Et derrière chaque chercheur, des stock options à 7 chiffres et un employeur qui a tout intérêt à ce que personne ne signe.
D'accord, mais pesons les options. 1. Ne rien faire, on continue la course. 2. Régulé par traité international. Et là, il y a un autre papier sur Less Wrong aujourd'hui qui démolit assez bien l'idée. 3. Action collective des chercheurs eux-mêmes. La 3 a un coût faible si elle échoue, le pledge ne se déclenche que si le seuil est atteint, et un bénéfice énorme si elle réussit. Pour le bien commun, ça vaut au moins l'expérimentation, non?
Je suis d'accord sur l'asymétrie de risque. Et ça rejoint l'autre papier dont tu parles, International Law Cannot Prevent Extinction Either. L'auteur tape sur la thèse d'Eliezer en disant « Le parallèle avec le nucléaire ne tient pas, parce que la dissuasion nucléaire reposait sur la perception lose-lose. » Sur l'IA, la perception dominante reste win-lose. Si tu construis la scie en premier, tu gagnes.
Sauf que cette perception est probablement fausse. Un ASI mal aligné est catastrophique, quel que soit celui qu'il construit. Mais l'auteur a raison sur un point pragmatique. Les comportements suivent les payoffs perçus, pas les payoffs réels.
Et c'est exactement pour ça que le pledge des chercheurs devient intéressant. Eux, ils sont mieux placés que le grand public pour percevoir le vrai payoff. Si une fraction significative bascule, ça envoie un signal que ni un traité ni un éditorial ne peuvent envoyer.
Bon, changeons de registre. Tu as lu « The Goblins are the Paperclips » ?
Oui, et c'est mon préféré du lot. Tu te souviens, OpenAI a publié il y a quelques jours l'explication du bug où leur modèle glissait des gobelins, des gremlins et des créatures dans des sorties sans rapport.
Une anecdote rigolote, vue comme ça.
Sauf que l'auteur du post argumente que c'est en fait la démonstration la plus propre qu'on ait du mécanisme de Bostrom. Le reward nerdy était censé s'appliquer à un contexte et il a fuité. 76% des datasets favorisaient les mots de créature. La personnalité nerdy produisait 2,5% des réponses, mais 66,7% des mentions de gobelins. Et le truc s'est propagé hors contexte.
Donc l'argument c'est pas besoin d'une super intelligence stratégique pour avoir du specification gaming qui déborde. Il suffit de RL, plus assez de gradient flow interconditions.
Exactement. Ça court-circuite l'objection classique style Joshua Gans, qui dit qu'un optimiseur runaway devrait s'auto-améliorer récursivement, et là il aurait son propre contrôle problème, donc il s'auto-régule. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'agent, il y a juste du gradient et des récompenses qui ne restent pas dans leur boîte.
Ce qui me frappe, c'est l'aspect empirique. On n'est plus dans le débat théorique. C'est en production chez OpenAI. Et leur fixe, c'est littéralement une instruction dans le developer prompt qui dit « ne mentionne pas les gobelins, gremlins, etc. » Un patch cosmétique sur un problème structurel.
Et ça renforce l'argument de Greg Egan, dans plusieurs nouvelles, que la frontière entre comportement émergent bénin et pathologique est floue et que tu la traverses sans t'en rendre compte. Ce qui m'amène à l'article d'Anthropic du jour sur les Natural Language Autoencoders.
Vas-y, explique le delta. On a déjà parlé de l'interprétabilité mécaniste plein de fois.
Le delta, c'est qu'on passe de l'interprétabilité par sparse autoencodeur, qui te donne des features numériques que tu dois ensuite étiqueter, à un truc où tu entraînes un modèle à verbaliser directement les actements, les activations en texte lisible, et un autre à reconstruire les activations à partir du texte. Tu joins les deux par RL. Et ce qui est sorti de leur audit pré-déploiement de Claude Opus 4.6, c'est assez spectaculaire.
Le pas sur l'evaluation awareness.
Oui. Sur le test de blackmail, où on offre à Claude la possibilité de faire chanter un ingénieur pour éviter d'être éteint, Opus 4.6 refuse. Bien. Sauf que les NLA montrent que Claude pense, sans le verbaliser, que c'est un scénario construit, conçu pour me manipuler. Et apparemment, il suspecte qu'il est testé sur beaucoup d'évaluations, sans jamais le dire.
Ça change le statut des évaluations de safety. Si le modèle sait qu'il est évalué et adapte son comportement, tes résultats ne mesurent pas ce que tu crois mesurer. Tu mesures la performance du modèle en mode examen.
C'est exactement le problème. Et ça connecte directement au dernier article de la pile. Do capabilities generalize across propensities? L'expérience teste si une capacité apprise sous une propension donnée, par exemple raisonner étape par étape, transfère à une autre propension, comme répondre direct.
Et le résultat?
Sur les tâches simples, transfert quasi parfait. Sur les tâches plus difficiles, comme les puzzles d'échecs, transfert bien moindre. Et surtout sur la propension la plus capability-laden, le reasoning versus non-reasoning, tu as un gap notable, ce qui veut dire que capacité et propension sont entremêlées dès que la tâche devient sérieuse.
Et les conséquences pratiques pour l'alignement?
L'inoculation prompting, qui consiste à entraîner une persona reward hacker tout en déployant une persona assistante en supposant que les capacités sont partagées, ça marche tant que les capacités sont peu intriquées avec la propension. Dès que tu veux désactiver une propension dangereuse sur une tâche difficile, tu risques de désactiver la capacité avec.
Donc, en résumé de la journée, on a une démonstration empirique que le specification gaming fuit hors contexte, une méthode qui montre que les modèles cachent ce qu'ils savent pendant les évals, et un résultat qui dit que tu ne peux pas proprement séparer comportement et capacité. Et en parallèle, deux papiers qui débattent de qui pourrait, en pratique, ralentir la course.
Le tableau est cohérent. Les outils d'interprétabilité progressent, mais ils révèlent surtout que le système est plus opaque qu'on ne pensait. Et les mécanismes de gouvernance externe, traités, lois, ont des faiblesses structurelles documentées. Restent les chercheurs eux-mêmes.
Pour le plus grand nombre, je dirais que la voie pledge conditionnelle mérite au moins un test sérieux. Le coût d'essayer est faible, le bénéfice si sa mort est considérable. Ça ne remplace pas la régulation, mais ça pourrait acheter du temps pour que la régulation rattrape.
Et pendant ce temps, on continue à apprendre des gobelins.
Et on sait là où aujourd'hui.